Fréquence Mistral, en direct du festival Chapeau Haut. Nous sommes toujours sur Fréquence Mistral en direct du Festival Chapeau, comme vous venez de l'entendre. Un plateau sur place au Centre Montagne à Villars-Saint-Pancras ce samedi de 14h à 17h en non-stop. Et nous accueillons maintenant trois nouveaux et nouvelles invités. Nous allons discuter ensemble, on a parlé de table ronde, mais c'est plus une discussion entre nous sur l'émergence artistique. Je suis toujours avec Juan.
Je suis là.
Donc Mathilde Cherbuin, Antonin Paris, très bien. Et Pina Wood, merci d'être venue. Plutôt que vous présenter, on s'est dit qu'on pouvait faire un tour de table et que vous nous disiez qui vous êtes et peut-être où vous en êtes dans votre parcours, puisqu'on va parler d'émergence artistique. Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Chifoumi, à proposition d'un Chifoumi.
Bon, allez Mathilde. Lance. Donc, moi, je suis Mathilde Cherbuin, de la compagnie La Dérouillée, et j'ai créé un spectacle qui s'appelle Lonely Sweetie. Donc, c'est un spectacle qui a été créé début août 2023, donc il a un an, d'ailleurs. C'est peut-être son anniversaire aujourd'hui, sait-on jamais.
Bon anniversaire.
Voilà, l'année dernière, donc à la fin de la création, j'étais allée le tester au Festival d'Aurillac. Et ensuite, j'avais enchaîné une petite tournée plutôt sur des fermes en milieu rural. Et depuis janvier, c'est un spectacle que je diffuse plus de manière professionnelle, disons, dans des MJC, des théâtres ou des festivals l'été.
Antonin, peut-être, ou Pinel ?
Bah, allez. Du coup, moi, c'est Antonin Paris, comme tu as dit. Je fais partie de la compagnie RSA et je présente le spectacle Colérique ici dimanche. Et c'est un spectacle, en fait, qui est... fini mais pas fini, enfin dans ce truc d'émergence justement, là j'ai une forme dont je suis assez satisfait, mais que j'ai vendue aux institutions comme étant pas fini pour justement bénéficier d'aide, avoir déjà assez de matière à leur présenter, mais être là, bah aidez-moi parce que c'est pas fini, voilà, donc c'est un spectacle sur lequel je travaille depuis, on va dire peut-être environ un an aussi, pareil, voilà.
C'est ton premier ?
C'est le deuxième spectacle de la compagnie, mais le premier spectacle solo.
D'accord. Je me permets juste parce que Mathilde, toi, tu en avais fait d'autres aussi, les spectacles.
Non, pas du tout. Non, c'est le premier.
Pardon, Pina.
Coucou. Moi, je suis Pina Wood. Je suis metteuse en scène, mais je suis aussi dramaturge et directrice de la performance pour d'autres compagnies et poétesse. Et là, ici, à Chapeau, je vais présenter un spectacle. Je suis plus à l'aise avec le mot dispositif, moi. J'invente des dispositifs. Et là, pour un peu raccrocher avec ce que vous avez dit, c'est un projet que j'ai envie de porter de manière un peu plus alternative. Donc peut-être en autoproduction, peut-être... voilà, je vais voir. Mais j'ai un peu envie de me distancer de mes autres productions qui sont dans le réseau des arts de la rue. Voilà.
Merci pour cette présentation. Alors, l'émergence artistique, on va peut-être déjà essayer de définir. On va donner des définitions, des limites, des idées. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, l'émergence artistique ?
Vaste question.
Bah non, mais justement, moi, c'est Pina qui prend la parole. Moi, j'étais pas très à l'aise avec cette discussion quand on m'a appelée. J'ai même fait un Marion. Oh.
Je confirme, elle a fait ça.
Parce que je sortais d'un plateau radio où justement on m'avait invité pour parler de ça. Donc pour dire je me sens pas dans quelque chose qui est de l'ordre de l'émergence artistique. Aux yeux de l'institution, si. Et j'ai un pote qui a 45 ans et qui un jour m'avait dit quand j'avais 30 ans, il m'avait dit mais tu seras artiste émergent jusqu'à tes 41 ans, Pina. Donc j'ai l'impression que ça avait parfois un regard institutionnel qui pose ce mot-là sur nous, comme un peu tout le temps. Les gens, ils savent mieux que toi qui tu es. Donc je dirais que c'est ça. Il y a quelque chose un peu de l'ordre de l'institution qui nous met dans des cases, puis qu'il y a des dispositifs qui s'adressent aux artistes émergents et d'autres non. Donc voilà.
Oui, bah, pour moi, c'est complètement ça. Carrément, c'est... une étiquette quoi qui est collée sur des projets, et moi c'était plutôt l'inverse. Je vois des festivals de théâtre, voilà, d'artistes émergents, et je suis là mais attends, cette personne par rapport à moi où j'en suis et au soutien dont je bénéficie, elle est pas du tout émergente, enfin elle bénéficie de beaucoup de soutien, elle va faire des tournées de festivals d'émergence justement, mais dans toute la France, du coup il y a des fois quelque chose de très de très injuste quoi, ressenti comme ça, où t'es là, bon, c'est pas ce mot définit pas vraiment ma réalité, alors que moi j'ai l'impression que du coup peut-être je suis au niveau en dessous, au niveau galère, et l'émergente c'est après quand t'as réussi un peu t'institutionnaliser un peu plus, si c'est ton, c'est ton but quoi.
Ouais, donc Mathilde, moi c'est vraiment pas un concept qui me parle du tout, j'y avais même jamais pensé, j'avais décidé de créer un spectacle et puis voilà, on y va. Du coup j'ai vite compris que l'émergence c'était, oui ça permettait de répondre à des demandes de subvention, chose que je n'ai pas du tout envie de faire, donc voilà, c'est pas un concept qui me parle. Et puis je trouve que ça hiérarchise beaucoup les artistes, et moi ça m'intéresse pas tellement.
J'adore, personne autour de cette table n'est convaincu par ce terme. Juan non plus d'ailleurs.
Non, moi non plus, et je trouve que oui, il y a un collectif qui s'appelle la Fédération des Pirates du Spectacle Vivant, je crois, qui parle plutôt de nous sommes des immergés, .es, plutôt que des émergentes, dans le sens où voilà, peut-être qu'on n'a pas envie d'être dans ce marché de concurrence, peut-être qu'on a envie de trouver des façons alternatives de créer. Et d'ailleurs, peut-être que aussi cette question de l'émergence peut être aussi dans l'idée, comment on commence à faire une création, quels conseils on peut donner peut-être à nos camarades artistes qui nous écoutent peut-être, ou des gens, n'importe qui voudraient commencer à faire de l'art vivant par exemple.
Oui, c'est marrant, je ne viens pas du tout de ce milieu-là, et quand j'ai vu ce terme en m'intéressant à Saxifrage et à Chapeau, puisque c'est à travers ce festival que j'en ai eu vent, je l'ai entendu comme ça. Je n'avais pas du tout cette idée d'institution, ce que ça pouvait représenter pour les artistes en fait, et c'est en discutant avec Juan qu'on en est arrivé là. Et justement, on s'est dit, bah, ça peut être l'occasion d'une table ronde pour remettre ça en cause et voir. Et nous, on a vu cette discussion plus autour de comment vous émergez, donc qu'est-ce que, par quels moyens, ça peut être institutionnel aussi. Hein, on parlait voilà, de répondre à des marchés, à des aides, avoir des aides publiques ou autres. Et voilà, donc je propose qu'on commence justement par ça et peut-être en parlant de vos parcours. Sur quoi plutôt vous vous êtes appuyé, vous, ou vous appuyez, vous êtes en plein dedans encore.
Je vais essayer de faire un peu un pont quand même avec un peu ce terme qui est très critiquable, mais c'est intéressant. Comme tu disais un peu, Antonin, à un moment donné, quand l'institution elle décide de s'intéresser à toi, je dirais que tu rentres dans une forme d'obligation, un rythme de travail qui est institutionnel et qui t'oblige parfois à travailler avec un certain rythme dans certaines conditions, et donc qui peuvent, et ça c'est mon avis, formater les écritures. Exemple, il y a un calendrier de production que tu dois mener, tu dois te dire que ton projet il sort dans telle année, donc du coup tu es dans des phases de recherche qui sont timées, tu as des budgets à rendre, donc du coup tu te retrouves à être artiste créatrice, mais tu te retrouves d'un coup à être aussi producteur et productrice de ton propre travail, comptable, tu te mets à endosser aussi d'autres choses pour pouvoir être viable et pour pouvoir continuer à l'intérieur de l'institution. Donc pour revenir quand même à émergence institutionnelle, je dirais que moi ce qui me pose question, c'est les rythmes de travail que ça nous impose et vraiment les carcans que ça nous impose et qui formatent aussi nos écritures. Un exemple, voilà, tu vas avoir un budget qui va être à 65 000 euros, jamais tu vas obtenir les 65 000 euros, mais tu dois absolument te projeter là-dessus. Donc forcément ça détermine un calendrier, un nombre de personnes au plateau. Et ça crée beaucoup, et je vais parler moi de mon endroit et ceux de mes camarades, vachement de frustration, vachement d'illégitimité, à modifier des écritures en cours de route pour être du coup presque légitime, comme si être professionnel, c'était être tous et toutes les mêmes professionnels. Ce qui fait que moi, ça m'invite sur Oratorio 627-1941 à avoir envie de sortir de ces formats-là pour pouvoir aller vers d'autres types d'écritures qui, moi, me conviennent mieux. Et avec le temps, je me rends compte que les formats qu'on me propose dans l'institution ne vont pas forcément avec les rythmes et les cadences dont moi j'ai besoin.
Et jusque-là, tu utilisais plutôt ces cadres-là ?
Alors moi, j'ai fait une formation qui s'appelle la FEAR, formation itinéraire des arts de la rue, qui maintenant est formation des auteurs de l'espace public et autrices de l'espace public. Donc quand tu sors de ça, c'est comme un sportif de haut niveau, on te pousse tout de suite à rentrer dans l'institution et t'es regardé par l'institution. Bon, fac ! Tu vas sortir, tu vas à l'Aurillac, tu vas à la Chalon, tu vas avoir auteur d'espace, tu vas avoir écrire pour la rue. Tous ces gros mots qu'on connaît, moi, dans mon réseau. Et donc oui, tu vas rentrer dans les formats de résidence. Donc moi, je viens de là, ouais. Je viens de ces formats-là en tant qu'interprète et un peu moins en tant que créatrice et auteuriste. Donc j'ai pu vachement observer ça, y être aussi, et je souhaite un tout petit peu m'émanciper pour porter des écritures qui me ressemblent plus, parce que comment, c'est quoi ?
Et vous, Mathilde Antonin, vous êtes dans quelle approche en ce moment ?
Moi, je suis un peu à la limite parce que je me rends compte que quand j'ai créé le spectacle, donc avant, moi, j'étais coordinatrice à la Confédération Paysanne, donc un tout autre métier, plutôt en région centre. Et j'ai décidé d'arrêter ce métier pour plutôt me tourner vers les arts du cirque. Et après 2 ans de formation, j'ai décidé de me tourner plutôt vers le théâtre. Donc, j'ai créé ce premier spectacle en autoproduction, en allant faire des résidences dans les maisons des copains à la montagne quand ils n'étaient pas là, et en achetant mon matériel chez Ikea. Parce que, non pas que je loue Ikea, mais parce que c'était pas cher. Donc j'ai un tout petit budget de production, qui ne tient pas en compte tout le temps de travail et qui n'est donc pas vraiment rémunérateur, en tout cas pour le moment. Et là, je me retrouve à la limite parce que, en fait, c'est un spectacle qui tourne assez bien dans des formes plutôt institutionnelles. Donc ça peut être des festivals subventionnés, des choses comme ça. Moi, j'aurais pas d'aide à la production vu que le spectacle il est terminé et ça me va très bien. Et j'ai bien aimé cette liberté de création où j'avais pas de délai, je me les étais mis moi-même en me disant bon, j'allais au festival d'Aurillac quand j'étais petite avec mes parents, j'ai envie d'aller jouer là-bas, faisons ça, ça me met une petite limite et puis créons le spectacle assez rapidement du coup. Mais je comprends tout à fait, là pour un prochain spectacle, j'étais en train un peu de me renseigner sur les demandes de subvention, etc. Et juste l'idée de remplir en fait un programme prévisionnel avec une thématique de spectacle qui colle aussi au cadre politique actuel, parce que c'est quand même toute une question de sujet, c'est comme dans la recherche scientifique, hein, c'est payé comme ça, ça me limite pas mal, donc voilà. Mais j'ai bien aimé cette liberté et j'aimerais bien la conserver.
Et ben, nous, on avait fait notre premier spectacle en autoproduction. Enfin, on sort pas. Enfin voilà, on n'a pas fait d'école qui peuvent permettre d'être intégré directement dans le réseau professionnel, mais plutôt des formations pro plus courtes qui donnent moins accès à ce réseau-là. Et là, moi, j'avoue que je suis au contraire pour ce spectacle à fond dans l'institutionnalisation, parce que j'ai aussi envie de pouvoir me projeter, me dire ok, on m'a prévu une résidence là, c'est super, ça veut dire que la semaine d'avant je peux être en vacances, enfin voilà, des choses comme ça qui vont me permettre de me projeter. Et ou financièrement, voilà, nous le premier spectacle c'était comme toi, autoproduction, donc hop, tu chopes ce que tu peux, voilà, en termes de matos, voilà, et machin, et où c'est que c'est pas cher. Et là, j'avoue que hop, je vais avoir du soutien là pour terminer ce spectacle, et que je respire quoi aussi. Je suis là, super, je vais pouvoir payer les potes avec qui je travaille, enfin, voilà, pouvoir enfin bien les rémunérer, me rémunérer moi. Et je suis hyper content de ça et hyper à fond de ça. Et comme je disais, j'ai déjà bien commencé le travail, donc là le calendrier qui m'est imposé et pas contraignant, au contraire. Enfin voilà, j'ai l'impression de m'être à peu près bien débrouillé de ce côté-là. C'est pas contraignant et au contraire, ça va me faire beaucoup d'espace pour chercher. Et j'ai demandé justement aux institutions qui m'accompagnent un nombre de temps de résidence assez faramineux qu'ils vont sans doute réussir à me donner. Donc ça va être chouette et je vais avoir justement beaucoup plus de liberté là-dedans, et d'être payé, ça va aussi me rassurer sur ce côté-là. Mais j'ai l'impression que ce qui m'intéresse et ce que j'aimerais garder, c'est, comme tu dis, avoir la possibilité de choisir, quoi, d'avoir les deux, d'avoir des projets qui sont hyper institutionnalisés, où là c'est cadré, tu sais que tu as de l'argent, et des autres espaces à côté pour pouvoir hop, tester des trucs. Et j'ai l'impression que c'est essentiel, parce que comme tu dis, ouais, sinon tu es enfermé dans un truc et... Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, de ce que j'entends de tout le monde, tu commences à travailler sur un spectacle, ça fait 2 ans que tu travailles dessus, t'en as marre de ce spectacle, en fait, tu veux travailler sur autre chose et d'avoir d'autres espaces à côté où tu peux expérimenter quelque chose de très court, ou de ok, ça c'est le sujet qui m'intéresse en ce moment, ce spectacle m'intéresse, je l'adore, mais là j'en peux plus, donc j'ai besoin d'une soupape pour autre chose et d'un truc moins institutionnel. Voilà, donc je pense que l'équilibre est à trouver là-dedans, pour aussi avoir son équilibre financier, quoi, parce que ça, ouais. Ça joue quand même beaucoup, quoi, sur toute ta vie.
C'est sûr. Vous vouliez rebondir peut-être ? J'ai vu des hochements de tête ou pas ?
Plutôt sur l'équilibre financier. C'est vrai que l'autoproduction, la grosse limite de cette liberté qu'on peut avoir, c'est tout de même de... quand c'est un travail seul, ça regarde que soi. Donc en fait, on peut orienter sa vie en fonction de ses dépenses et de ses non-recettes. Après, quand on fait des projets collectifs, moi, mon prochain spectacle sera plutôt collectif. Moi, pas payer les copains, ça me va pas. Et cette forme de précarité des artistes, elle me va pas non plus. Donc c'est un peu l'équilibre tangible de ce que vous racontiez.
Donc je dirais moi un artiste émergent. c'est une personne aujourd'hui en tout cas multiple qui ne peut. Je vais parler de quelqu'un qui n'existe pas. Donc non, en fait moi pour émerger et pour rester comme ça en flottaison, j'ai besoin de la création. Mais pas que. J'ai besoin d'être dans d'autres registres. L'artiste, pour moi, il n'est pas que dans la création d'une œuvre à chaque fois. Il est aussi dans la cité. Donc, il est aussi en train de donner des cours. Il est aussi parfois en train d'intervenir dans des espaces thérapeutiques pour soutenir les autres. Il aide d'autres compagnies. Il peut intervenir auprès de l'institution pour la... Moi, c'est mon cas. Pour l'aider à évoluer. Donc, un artiste émergent, c'est... et qui réussit, je pense, comme ça, à flotter, c'est une personne qui arrive à vraiment s'intégrer dans la cité et qui n'est pas juste en train de créer et de faire face comme ça à cette réalité autoproduction, pas production. Voilà. Il y a d'autres moyens pour moi d'être financé. Et si on en parle ici, c'est bien. Il y a plein d'autres moyens que l'institution d'être financé. Il y a d'autres endroits de ressources financières qui existent et qui, du coup, te déplacent dans ce que tu attends de toi-même ou dans ce qu'on attend de l'artiste.
C'est super que tu ouvres ce champ, justement, quels peuvent être les autres moyens que ceux institutionnels à disposition des artistes.
En tout cas, je ne sais pas si c'est l'institution, parce qu'on reste toujours dans des systèmes institutionnels, mais si on parle de l'institution artistique, donc tu vois, voilà. Mais c'est peut-être d'autres endroits qu'on attend moins. Exemple, les communautés de communes ont de l'argent, les mairies ont de l'argent, l'hôpital psychiatrique a de l'argent, l'hôpital, mais c'est une institution, tu vois, du coup. Les universités ont de l'argent. C'est juste que parfois, ça vient décaler un peu les formats aussi de ce qu'on sort, de ce qu'on cherche. Ça vient juste nous décaler et nous mettre à un autre endroit. On est obligé de créer forcément. C'est ça que je veux dire, ou de sortir un objet, c'est ça que je veux dire, qui ensuite sera vendable. Moi, je vends aussi ma personnalité, je vends mon énergie, je vends mon histoire. C'est dur de dire je vends, mais c'est avec ça, en tout cas, que je peux gagner de l'argent. C'est un échange, je gagne de l'argent aussi comme ça, pas que avec un objet artistique.
Ça me fait penser, Mathilde, tu travailles avec les écoles, non ?
Beaucoup. Pour le moment, l'idée, c'était de faire rentrer ce spectacle, enfin, l'idée de la création de ce spectacle, qui parle de l'addiction aux réseaux sociaux et des troubles du comportement alimentaire, c'était un support de médiation et de discussion pour des jeunes et des moins jeunes, mais moi, l'idée, c'était plutôt d'aller jouer dans les écoles. Il y a quelques limites dans l'acceptation des artistes émergents dans le dispositif Pass Culture. Donc c'est par exemple une limite, c'est qu'on est un peu des poissons sous l'eau, mais qu'ils estiment qu'on n'a pas vraiment fait le grand saut. Donc par exemple, moi, mon spectacle, pour le moment, il ne fait pas partie de ce dispositif-là, parce qu'il m'a été difficile, enfin, je ne peux pas y rentrer encore. Donc je ne peux pas le jouer dans les écoles publiques. Donc je me tourne vers les collèges et les lycées privés pour jouer ce spectacle devant des publics plus jeunes, ou alors des MJC, des centres sociaux, des centres culturels.
Comment tu passes ce cap pour rentrer dans le Pass Culture ? Tu dois montrer ton spectacle et il est validé ?
Alors, globalement, ce qu'on m'a dit au téléphone, c'était très clair, c'était « Mademoiselle Cherbin, vous devez être acceptée par vos pairs ». Donc, on en revient à avoir un spectacle qui a été financé en amont. Donc, l'autoproduction, c'est pas une marque de reconnaissance parce qu'on se reconnaît soi-même. Donc, c'est vrai que ça marche pas. Avoir un calendrier un peu étoffé avec quand même, il y a une liste en fait de festivals ou de structures de théâtre conventionnés qui sont reconnus par les services de l'éducation nationale et du ministère de la culture qui font un peu des tampons pour montrer que oui, on a été là, donc ça va, il y a eu une sélection, donc tout va bien. Les chemins un peu parallèles, ils sont plus longs. Je ne perds pas espoir.
Tu en mets en place d'autres
pour
un chemin parallèle pour développer ton
après le Pass Culture, en fait aujourd'hui la problématique du Pass Culture, c'est que les collèges et les lycées ont un budget par élève pour financer des spectacles, donc en fait ils veulent pas puiser dans leurs fonds propres pour accueillir d'autres spectacles dans les écoles. Du coup, moi, comme mon objectif c'était quand même de jouer devant des collégiens et des lycéens, je vais juste retenter ma chance avec un nouveau dossier de candidature, mais il y a pas trop d'options en tout cas si je veux réussir à avoir cet objectif, hein, parce que ça m'intéresse profondément quoi.
Je reviens sur le terme que tu utilisais, Pina, de vendre, de se vendre, entre guillemets, ou de vendre une production. Est-ce qu'en tant qu'artiste, justement, ça peut poser problème ? Je fais d'identité en tant qu'artiste. Je pose cette question-là ouverte, si ça vous parle.
Moi, dans ce que tu disais, ça m'a beaucoup parlé aussi, comme tu dis, d'avoir différentes pratiques. Et je trouve de faire des interventions, des ateliers ou des choses comme ça, où comme tu dis, tu viens vendre peut-être ce que tu es, ça nourrit aussi ta pratique artistique parce que tu la confrontes à d'autres. Et je sais pas, oui, le terme vendre, c'est vrai que c'est ça qui correspond, mais en même temps, j'ai l'impression que quand tu fais une production artistique, tu viens aussi puiser dans toi. Qu'est-ce que t'as envie de dire? Donc forcément, tu parles de toi. Et si tu viens faire un atelier qui intervient sur ce thème, oui, c'est sûr que ce qui te fait gagner de l'argent, ça va être le thème des choses qui te tiennent à cœur et donc qui sont toi. Donc je vois ça comme c'est sûr que dans une société idéale on ferait pas ce truc de vendre, il y aurait pas de marchandisation de ça, mais en vrai je pense que tu peux quand même trouver quelque chose d'hyper chouette et justement ok, l'objet est vendu, mais le public avec lequel t'interviens, tu viens lui donner quelque chose, il te nourrit toi aussi, donc plutôt c'est quand même assez, ça peut être assez positif je pense, mais c'est pas que négatif.
Moi, je n'ai aucun problème avec ça.
Moi non plus.
Saltimbanque, la banque des sceaux. On vend les sceaux. On fait des pirouettes et dans un chapeau, on nous met de l'argent. Donc, voilà. Moi, je suis là-dessus. Moi, je viens d'un milieu extrêmement pauvre, donc je n'aurai pas d'héritage. Je n'ai pas la terre, donc j'ai pas du foncier qui va m'être légué. Donc je travaille et je dois gagner de l'argent pour manger, pour vivre, et j'ai en plus un bébé. Donc moi je suis une artiste maman. Donc là sur l'année qui arrive, j'ai un stress qui est supplémentaire et donc du coup, j'ai pas de problème avec ça en fait. Je vois un service à la personne. Moi je suis artiste service à la personne, je suis animatrice de supermarché. Enfin, moi j'ai aucun problème avec ça, et au contraire, je me bats là-dessus. L'argent, moi je parle de l'argent là. Ma voiture elle tombe en panne, je vais pas la payer avec des poèmes quoi quand même. Je vais la payer avec des sous. Donc c'est pour moi une question qui est fondamentale. Artiste, en tout cas metteuse en scène, dramaturge, c'est un métier. Et voilà, donc j'ai besoin d'argent et j'ai besoin d'être. Il y a des grilles, il y a des syndicats qui se battent pour nous. Donc moi je suis très très à cheval là-dessus. Par contre, ça veut pas dire que je suis à cheval. Des fois je suis à poney, des fois je suis à chèvre,
à bédane.
Parce qu'en fonction de là où je joue, c'est autre chose aussi qui joue. Quand je vais jouer à Aurillac, alors là mon pote, je vais te dire que tu vas être dans la grille quoi. Et c'est sûr, parce qu'ensuite j'ai besoin de soutenir un autre festival où demain il y a des valeurs qui sont les miennes, et du coup l'argent il va être un tout petit peu décalé et je vais faire des efforts. En fait c'est une vraie notion, mais qui est comme un petit élastique et un chewing-gum. Donc c'est pour ça que pour moi il faut pas du tout avoir de tabou là-dessus quoi. T'as pas l'argent, ok, donc tu me loges, tu me nourris, tu me donnes une semaine de résidence. En fait, c'est un métier, quoi. Voilà. Et c'est très important pour moi de le défendre. Je suis pas encore syndiquée, mais je vais me syndiquer l'année prochaine. Voilà.
Carrément, et c'est vrai que même le fait de ne pas parler d'argent ou de faire semblant que les artistes ne s'intéressent pas à vivre et à être payés, ça crée soudainement aussi une sorte d'ignorance, comme si on ne devait pas se poser ces questions-là. Soudainement, dans les facs, on n'enseigne pas ça, on est un peu comme à la ramasse, alors qu'on a besoin quand même de monter des projets, explorer ça, et surtout manger quoi aussi, avec ces services qu'on donne, qui sont en plus des aventures qui nous transforment aussi, donc... On reçoit aussi beaucoup de choses, mais une d'elles, c'est de l'argent. Et voilà.
Après, la question, c'était est-ce que c'est difficile ? Moi, j'ai un peu plus de bouteilles maintenant, donc c'est moins difficile. Donc là, je me la ramène, je fais la courageuse. Mais au début, c'était hyper dur. Hyper dur d'oser en parler. Tu me donnes 15 jours de résidence. J'étais tétanisée devant les personnes que j'avais devant moi. Parce qu'il faut savoir qu'on discute avec des personnes qui sont terrorisantes hein, dans l'institution. Moi, en tout cas, j'ai été terrorisée par plein de rendez-vous que j'ai pu faire. Et donc, c'est très compliqué cette notion d'argent. Yael décide, parce que moi j'ai eu beaucoup d'hommes, il décide à notre place, corrige des budgets, tu dis 7 000, on va dire 5 000, enfin, c'est très difficile. Moi ça a été très difficile en tant que jeune artiste, cette question-là c'était très très dur, très dur.
T'es dans une position en dessous quoi, ils ont une position d'autorité, ils peuvent décider tout. Ouais, moi là j'ai eu un rendez-vous récemment, j'ai eu l'accompagnement, mais j'étais là, mais ils me le donnaient pas, voilà, je ne fais pas de travail l'année prochaine. J'étais là, ce rendez-vous va décider de, voilà, de mon avenir l'année prochaine, parce que financièrement, c'est ça qui va, me, voilà, qui va m'aider à faire le projet, mais aussi, enfin, pas, mais aussi me faire vivre sur l'année. Quoi. Et t'es là, et ouais, voilà, faut, je pense que tu gagnes de l'assurance au fur et à mesure, et tu t'arrives à imposer tes, tes conditions. Ce que je disais, cette histoire de conditions de résidence que je disais tout à l'heure, je suis hyper content d'avoir demandé trop. En face, ils étaient là, oh là là, c'est un peu beaucoup et tout. Et après, ils me rappellent, oui, bon, on a réfléchi, du coup, on va te donner ce que tu veux. Et j'étais là, yes. Genre, j'ai bien fait de, voilà, de pas minimiser mes, mes besoins. Et c'était ma première, première petite victoire d'artiste émergent.
Ça, c'est difficile dans tout métier quand on commence d'arriver à, voilà, à mettre. À se vendre à un certain prix aussi, hein, quand on débute, justement, quand on est émergent, entre guillemets. Et ça pose aussi, on s'appose la question de l'argent, et vous évoquiez le public aussi. Je me demandais quelle place le public a dans cette phase d'émergence, on va parler de sens large, temporellement parlant.
Pendant le processus de création ?
Oui.
Ben, je pense que c'est très variable, donc j'ai parlé pour moi, mais moi je détestais, j'ai fait une sortie de résidence, mais c'était déjà la fin du spectacle, et depuis j'ai pas trop bougé la forme, mais j'aime bien changer les choses parce que sinon je m'ennuie, donc je retente des choses régulièrement, donc c'est un spectacle qui évolue et qui à mon avis sera jamais, il y aura jamais de forme fixe, et puis c'est un spectacle qui se joue et en salle et dans la rue, donc c'est vrai que dans la rue il y a aussi beaucoup plus de possibilités pour intervenir et laisser libre cours à son improvisation. Du coup j'ai pas tant, enfin moi je suis plutôt allée au festival de Riac en me disant j'ai une représentation par jour pendant 4 jours, et en fait entre le premier jour et le quatrième jour c'était quand même un tout autre spectacle, et voilà, et je l'ai pris comme ça et j'étais plutôt satisfaite du dernier jour, donc je suis repartie de ça pour la suite des dates, enfin des représentations, et depuis je le change encore un peu, mais puis quand j'en ai un peu marre je rechange des trucs.
Et tu le changes pour toi, tu ne changes pas vis-à-vis d'un regard du public.
Je le change pour moi, je le change aussi pour le public. Après, ce qui est difficile, c'est qu'en fait, les publics, ils sont tous différents. Là, il y a 2 semaines, je l'ai joué devant un public de soixantenaires qui venait de faire 20 km de rando. Ça n'avait rien à voir avec un public de trentenaires. Mais c'est un spectacle qui parle des réseaux sociaux. Donc déjà, forcément, la compréhension du sujet de base est ultra différente. Et en fait, ce qu'on ressort après le spectacle en se disant « Ah ben là, quand même, c'était... j'ai beaucoup, beaucoup ramé. » Ça amène aussi à rechanger des choses pour l'améliorer. Enfin, moi, je vois plutôt bah, quand ça rame, c'est pas très grave, ça dépend des jours, mais, mais ça permet aussi de réactiver son imagination. Enfin, pour ma part.
Alors, moi, j'adore cette question. Parce que moi, le spectatorisme est au centre de mon travail. Je l'aime, je l'adore. Je, voilà, je crée des, je disais que je crée des dispositifs parce que voilà, c'est y a pas d'écriture forcément très fixe. Il y a une dramaturgie qui est solide. Et ensuite, on invente des dispositifs où du coup, il y a une possibilité d'interaction avec les personnes et ça modifie à l'intérieur l'écriture. Donc, je travaille avec des performeurs et des performeuses qui sont capables d'accueillir ça. La direction de performeuse que je pratique, elle forme des personnes à accueillir ça. Et puis je suis dans le réseau des arts de la rue qui est pensé avec le public au centre du travail, même si les formes, il y a des formes voilà, très classiques, très frontales qui sont des formes traditionnelles des arts de la rue, mais quand même l'émergence de ce réseau-là, c'est à destination du public dans l'histoire de ce réseau-là. Mais pour moi, ma particularité, c'est ça. C'est mes performances, elles sont un peu plus dispositives qu'autre chose. Moins dans l'oratorio qu'on va voir ce soir, parce que je suis vraiment au début, mais je cherche quand même cette chose-là. J'aime bien le bordel. Moi, j'aime bien quand d'un coup, il y a un mec qui se lève, il dit un truc, et que je sois capable de l'intégrer. J'aime bien le bordel quand même. J'aime bien que le public descende sur le plateau, qu'on bouge les chaises ensemble. Enfin, il y a vraiment un truc où j'aime bien fabriquer avec. Voilà.
Bah. Oui, c'est sûr, de toute façon, sans public, il se passe pas grand chose, mais si on parle en termes financiers, on peut pas. Enfin, en tout cas, moi, là, l'expérience que j'ai, c'est qu'on ne peut pas trop compter sur lui, quoi. Enfin, en termes de, tu vois, si tu fais l'exemple, si tu fais un spectacle au chapeau, et ben souvent, enfin, ça dépend où tu vas, c'est sûr, ça dépend de beaucoup de choses, mais bon, souvent, voilà, tu vas pas te faire l'argent dont t'avais besoin. Donc moi, je vois plus là où j'en suis, genre, ok, je vais chercher l'argent, le gros de l'argent du côté des institutions. C'est sûr que t'en as aussi, enfin, en chapeau, c'est sûr, des fois, enfin, c'est pas tout le temps miséreux, mais voilà, mais par contre, oui, c'est sûr que c'est important de. Il faut aussi se confronter. Enfin, moi, je les vois plus aussi là en ce moment. Moi, le public me donne plus la validation artistique dont j'ai besoin que l'institution où je vais présenter mon projet. Et bon, bah, je vais le présenter. Enfin, ils ont pas vu, ou alors ils voient des milliers de spectacles et du coup mon spectacle il se noie dans le reste. Alors que hop, les gens qui viennent te voir à la fin, qui sont là, ah c'était super, que tu les entends réagir, que machin, bah là ça te hop, t'es là, t'es ok, bah voilà, moi c'est super, c'est pour ça que je fais ça. Et le truc voilà de temps institutionnel font que tu vas vers le public. Plus voilà, dans des sorties de résidence, mais aussi à la fin, peut-être quand ton spectacle est fini, là tu vas le jouer. Et ça, je trouve ça, enfin moi en tout cas, là, je suis très contente d'avoir cette forme qui n'est pas tout à fait finie, mais qui tient la route et que je peux jouer, parce que je suis là, comme ça, je suis au contact du public. Alors que si j'étais, ma création, celle-là, enfin le spectacle colérique, était complètement institutionnalisé, je verrais pas de public, quoi. Donc voilà, je pense qu'il y a ce truc aussi de. Bah, de validation de qui te nourrit aussi ton travail et qui vient te dire ah ok pourquoi je fais ça quoi. Voilà, tu reviens au centre du truc et tu arrêtes de penser pendant ton après-midi, ton week-end, t'arrêtes de penser à tes financements, à tes trucs, à tes machins, à ton calendrier, et tu dis ok bah là voilà, je vais jouer devant ce public, je vais le rencontrer, ça va être super.
Et alors moi je suis un peu à l'inverse de toi.
Ok.
C'est-à-dire que moi, mon public est très généreux. Non, alors, c'est une question de forme avant d'être une question de production. C'est vraiment, il y a des formes qui ne bougent pas et qui sont à réception et on assiste au spectacle. Ouais. Et il y en a des très belles et je les adore. Il y en a d'autres qui sont vraiment en collaboration. Mais ce que je veux dire par rapport à la subsistance et à l'émergence, en tant qu'interprète et plein d'autres trucs, l'institution, on adore. Par contre, moi, en tant qu'auteurice et en tant que créatrice, moi, c'est mon public qui me fait travailler. C'est qu'à l'intérieur, les gens, ils kiffent tellement. Je pense à un spectacle qui s'appelle Les Majorettes, parce que les majorettes finissent toutes sous un tas de bûches dans une bétonneuse. Les gens, ils surkiffent tellement que ce spectacle, il a beaucoup plus tourné dans des festivals tout petits, avec des toutes petites économies, que dans l'institution. Et j'ai fait mes intermittences avec ce spectacle, parce que c'est un spectacle pour le public et qui surkiffe et qui nous appelle et qu'on vient chez eux. C'est comme ça qu'on a fait émerger ce spectacle. C'est parce qu'il y avait des gens dans le public qui ont même appelé des scènes nationales et trucs en disant nous on veut vivre ça, on veut que ça vienne chez nous. Donc je dirais que dans les majorettes, le public il est déterminant. Et c'est une phrase de Joseph Beuys, là, moi j'adore Joseph Beuys, je suis à don Joseph Beuys. L'institution, elles sont pâtées les couilles et le vagina de ce mec. C'était assez compliqué, il était tout souvent en colère et il avait un public, mais c'était pléthore devant les galères. C'était un truc de ouf. Et moi c'est ce que j'ai retenu, c'est pense à ton public, c'est pour lui que tu joues et c'est lui en fait qui va te défendre, qui va se battre pour toi. Jamais un directeur de gros festival va se battre pour toi s'il a pas un intérêt. Le public, s'il t'aime et qu'il sent qu'il a vibré, il va avoir envie que d'autres vibrent et il va venir te chercher. Nous on vit ça avec les majorettes, quoi. Les gens ils m'appellent parce qu'ils ont envie de vivre ça.
Donc le public est quand même très présent, en tout cas pour toi, dans le processus.
Ouais, et ça m'émeut, et même avant, enfin c'est, ça m'émeut même de le dire, quoi. C'est, sans ces gens, je mange pas, et je me déplace pas, et je viens pas, et voilà.
Ça m'amène à bifurquer légèrement sur l'émergence artistique. Pour finir cette émission, il nous reste 5 bonnes minutes. Peut-être, vous, votre processus de création, comment il se passe? D'où naît une idée d'un spectacle?
Vaste question, ouais. Mais moi, j'ai que l'exemple de... Enfin, là, c'est un spectacle long. Après, j'avais créé d'autres numéros, mais en tout cas, moi, c'était souvent les questions. J'étais, oh, comment font les artistes pour créer des spectacles? Vaste propos. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que ce que j'aimais bien faire, c'était des études anthropologiques, un peu. Ou de sociologie, j'aurais pas la prétention de dire anthropologie, mais du coup, parce que je viens d'une formation comme ça, d'anthropologie de l'environnement, et j'aime bien creuser mes sujets à fond. Donc là, c'est un sujet qui parle d'une influenceuse YouTube, un milieu que je connais pas du tout, donc j'ai vraiment regardé des heures et des heures et des heures et encore des heures de vidéos en ligne, voilà, donc ça m'a beaucoup inspirée, et ça m'a permis de me protéger aussi, parce que c'est quand même vite... assommant, mais là comme c'était dans un but de recherche, je me suis vraiment perdu corps et âme dans cette étude. Et en fait et donc tout le spectacle j'écris comme ça. Moi j'ai beaucoup écrit d'abord, tout j'écris, tout j'écris vraiment tout, et après le plateau ça met peu de temps, ça m'a pris, je sais pas, franchement 5 jours je pense, mais parce que j'avais tous les textes et tout le dispositif sonore et toute l'écriture en fait du spectacle.
Et voilà, je me suis rendu compte que mes anciens numéros, c'était aussi un peu ça. Et les sujets, ça vient... les troubles du comportement alimentaire, c'était un sujet personnel. Après, le lien avec le monde numérique, c'était plutôt un gros questionnement que j'ai sur les directions qu'on prend en tant qu'humain. Et voilà. Et les deux ensemble, ça allait assez bien. Enfin, donc, voilà. Une observation du monde et de soi, dirais-je.
Et ce sujet, ce sujet-là, par exemple, il te vient comme une... Enfin, tu veux dire, tu le prends en charge lorsque l'obsession, une sorte d'obsession arrive, ou c'est quelque chose où soudainement tu te dis « Ah, ça m'intéresse beaucoup ». Est-ce que c'est rationnel, tu vois, de choisir ce sujet, ou est-ce que c'est un truc qui te vient comme ça, soudainement
C'est un peu rationnel. Moi, je pense que j'ai envie plutôt de... Je suis assez cynique. J'ai un peu un bon humour noir, donc j'ai bien envie de foutre l'épée dans le plat et puis de dire bon bah les gars et les filles, ça va pas trop ce qu'on est en train de faire, et du coup j'ai plutôt envie de dénoncer des trucs, en tout cas. j'ai envie de servir un peu à ça, avec humour hein, certes, ou pas, et émotion, et pas que de l'humour, mais en tout cas ça me va bien de foutre un peu le bordel avec les formes, parce que c'est un spectacle qui touche aussi les jeunes, donc j'avais pas envie de faire un truc non plus trop punk, mais du coup voilà, c'est un peu ça ma motivation. Et les sujets, bah en fait je pense que les sujets qu'on connaît le mieux, c'est les sujets qu'on est les plus à même de traiter, donc moi en tout cas le corps des femmes et les troubles alimentaires, ça me parlait plutôt pas mal, donc j'ai pas réinventé la poudre, quoi.
Ça vous parle, Pina?
Bah oui, carrément. Enfin, je rejoins carrément ce que tu dis. Enfin, quand tu crées, il y a une nécessité, quoi. Une nécessité de parler d'un truc, une nécessité de, voilà, de sortir quelque chose, une envie de parler de quelque chose. Moi, je crois qu'il y a une grosse dimension. Enfin, je pense que ça m'intéresse pas de parler de quelque chose si ça me parle pas de moi, pas dans un truc, pas dans un ego trip, mais dans un truc comme tu dis, parce que c'est ce que je connais, c'est ce que j'ai envie de défendre et envie de toucher des personnes avec ça, parce que ça les touchera, parce que on expérimente beaucoup de choses similaires quand même entre être humain, et la dimension, enfin moi ça me parle beaucoup, comme tu dis, la dimension politique, ben voilà, aller parler de quelque chose parce que t'as envie, voilà, de, je sais pas, d'éclairer sur ce sujet, qu'on parle de ce sujet, que voilà, ouais.
Pardon, j'étais à fond de ce que mes camarades disaient. Alors moi, c'est complètement pas ça, mais parce que pour des raisons, je sais pas, pendant longtemps, mais je me disais que j'avais rien à dire, quoi. Ouais. J'étais une grosse merde, j'ai quand même eu un truc un peu comme ça, quoi. Et je me disais, bon, bah, je vais me mettre au service des autres, donc je suis devenue aussi interprète là-dessus. Je me disais, bon, bah, j'ai une voix, j'ai un truc, un machin, vas-y, qu'est-ce que tu veux que je porte, quoi. Donc je vais donner toute ma force au service. Ouais, j'ai une épée, je suis très chevalier, quoi. J'ai une épée, tu la loues, tu la payes, et je me bats pour toi, quoi. Et c'est peut-être pour ça que les spectacles que j'invente, parce que peut-être qu'il faut que encore je fasse un peu de thérapie, mais aussi parce que je suis une femme racisée. Ça joue vachement ça. C'est que ma parole, souvent, c'est pas faux. C'est qu'il y a un espèce de truc où on me renvoie souvent. Bon, ben ça, on s'en fout un peu. De toute façon, il y en a d'autres qui parlent de ça, quoi. Il y a d'autres blancs qui vont parler des Caraïbes. Donc, allons-y. Allez-y, parlez des Caraïbes, parlez du Cameroun, parlez tout ce que vous voulez. Et puis de l'autre côté, je me dis, bon, bah, on n'a pas trop envie d'écouter la parole de certaines personnes racisées. Donc, il y a peut-être un syndrome un peu chelou là qui s'est formé en moi. Et je me suis dit, bon, puisque les sujets qui sont les miens, on ne les écoute pas, c'est aussi, j'arrive pas à les faire émerger parce que je ne me sens pas entendue. C'est un peu compliqué ce que je dis, mais j'espère que vous suivez. Donc, je ne me sens pas entendue, donc j'ai du mal aussi à les faire émerger. C'est peut-être aussi pour ça que je suis une artiste du dispositif et que je me mets à inventer des choses qui font que les autres prennent la parole. C'est que c'est ma qualité. En fait, je travaille avec ma qualité. Donc j'ai dû beaucoup plus réfléchir à quelle est ma qualité et qu'est-ce que je peux mettre au service que vraiment qu'est-ce que j'ai à dire. Et ma qualité, c'est écouter l'autre et prendre dans mes mains ce que la personne elle a à dire et lui dire t'es légitime et t'as le droit et me démerder pour que je la porte au nu, comme dans la direction de performeuse, quoi. Où tu veux aller, je l'entends très vite, très bien, même si tu le dis pas, je le sais et je vais t'aider à y aller. Et c'est souvent ça mes projets. Donc moi j'ai besoin de vachement de temps pour connaître les interprètes, les performeuses, pour comprendre quels sont leurs objectifs et comment on va y aller ensemble. Donc souvent je mens sur le sujet du spectacle, je remplis le dossier de machin et ensuite je regarde qu'est-ce que j'ai sous les yeux. Je suis assez spirituelle, donc je me renseigne aussi un peu qu'est-ce que les astres en ce moment ont envie, et je me dis ok, on va y aller, on va essayer de répondre à quelque chose qui est une urgence et une nécessité dans le monde. Donc voilà.
Et tu arrives à travers ce dispositif à faire sortir, comme tu disais, à mettre sur piédestal, mais ce que toi, tu voudrais dire ?
Bah, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être à ma place. Et encore une fois, ça vient peut-être aussi de ce que je suis et de mon histoire et du fait que je suis une personne non blanche, tu vois. De me sentir à ma place, c'est l'objectif là. C'était l'objectif de ces... Maintenant, je me sens à ma place, donc peut-être qu'on va avoir un autre type d'écriture. Mais c'était l'objectif. Donc il fallait vraiment que je me concentre sur qu'est-ce que je sais faire de mieux. Et ça, je sais le faire.
Bien, ce sera le mot de la fin. À moins qu'il y ait quelqu'un qui veuille rajouter peut-être un petit mot, on va clôturer cette discussion. Juan, tu étais passionné par ces conversations, t'as pu entendre.
Ouais, je suis parti très loin aussi. Merci beaucoup.
Ouais, merci à vous les trois, merci Mathilde, Pina, Antonin. Bon festival. On va peut-être rappeler quand est-ce que vous jouez. Donc, Oratorio. Alors.
627
941. Ouais, je préfère que tu le dis vachement bien. Performance poétique en installation sonore immersive de Pina Wood et Yogi. 17h40 demain pour Lonely Sweetie, la compagnie La Dérouillée avec Mathilde Cherbuin. Et 16h15 demain, Colérique de la compagnie RSA d'Antonin Paris.
Et Oratorio, c'est 19h15.
19h15.
J'ai dit quoi ?
Tu n'as rien dit, Marion.
Ah, pardon, c'était écrit. Hein.
Tu t'es perdu dans le chiffre.
Je me suis perdue, moi aussi. Ouais, les chiffres, c'était trop dur. Merci et on se quitte sur la musique à nouveau. C'est la musique de Joy qui jouera demain à 20h.
Et ton odeur sur ton t-shirt crève.